Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Qu'est-ce que le wahhabisme ? Est-ce un mouvement strictement religieux ou a-t-il une dimension politique intimement liée au pouvoir saoudien ? Il est défini par ses partisans comme un courant réformateur et fondamentaliste de l'islam sunnite, ou au contraire comme un pseudo-courant sunnite extrémiste par ses détracteurs. Assurément austère et puritain, en quoi est-il différent du salafisme ? Explication de texte avec le chercheur Stéphane Lacroix, spécialiste de l'Arabie saoudite.
Orient Hebdo sur RFI.
Stéphane Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Auteur de Arabie Saoudite, un magistère sur l'islam contesté. Stéphane Lacroix, qu'est-ce que le wahhabisme dont se réclame le pouvoir saoudien ?
C'est un message religieux, une prédication religieuse en arabe, une da'wa, qui prétend revenir à l'islam de ceux qu'on appelle les salafs, c'est-à-dire les pieux ancêtres, le prophète et ses compagnons et les premières générations de musulmans. Donc c'est un islam qui est fondamentaliste, qui s'appuie sur une lecture littérale des textes sacrés. Hein. Il faut, pour les salafistes ou les wahhabites, exclure au maximum la raison de l'interprétation des textes et coller le plus possible à la lettre du texte. Et par ailleurs, c'est aussi un message qui veut revenir à l'orthodoxie sunnite dans sa forme la plus pure. Donc il y a chez les wahhabites cette volonté de séparer l'islam de tous ces avatars qui sont nés à partir du substrat originel à travers les siècles, en tout cas c'est comme ça que les salafistes ou les wahhabites les voient, que ce soit le soufisme en sunnisme, hein, qui est quelque chose que les wahhabites considèrent comme étant une déviance par rapport à l'islam originel, mais aussi évidemment toutes les écoles non sunnites, que ce soit le chiisme par exemple, hein, qui dès le départ est considéré là aussi comme une déviance. Donc c'est un message qui est complexe à la fois théologique et juridique.
Au XVIIIe siècle, le wahhabisme naît à ce moment-là et il est considéré par l'Empire ottoman, qui est le grand possesseur de cette région, comme une secte, en quelque sorte, une secte hérétique. Comment cette secte hérétique de l'époque a-t-elle pu conquérir le pouvoir ?
Oui, alors il faut se souvenir que les Ottomans, eux, sont partisans d'un islam traditionnel plutôt soufisant. Hein. Les confréries soufis sont vraiment partie de l'architecture religieuse et politique de l'Empire ottoman. Donc évidemment, dès le départ, ils vont se retrouver en conflit avec les wahhabites d'Arabie Saoudite. Le conflit, d'ailleurs, il se déploie des deux côtés, parce que le cheikh Mohamed Abdel Wahhab, qui est l'inspirateur du wahhabisme en Arabie Saoudite, hein, donc c'est de son nom que vient le terme wahhabisme, même si là encore, j'ai dit, les wahhabites le rejettent, parce que les wahhabites considèrent que leur message, c'est le message de l'islam des origines.
Oui, universel.
Et ils ne se considèrent pas les disciples de Mohamed Abdel Wahhab. De leur point de vue, il est simplement celui qui a montré la voie. Donc c'est pour ça qu'ils rejettent l'appellation. Mais eux-mêmes, quoi, Abdel Wahhab lui-même, considérait le califat ottoman comme étant mécréant. Donc, je veux dire, on est dans une relation qui est à couteau tiré dès le départ entre les wahhabites et l'Empire ottoman. Mais les wahhabites vont réussir à faire quelque chose d'assez extraordinaire dans la péninsule arabique, hein, puisque c'est un lieu où il n'y a jamais vraiment eu de pouvoir fort qui a pu se constituer, en particulier dans ces régions centrales de l'Arabie saoudite qui sont aujourd'hui la région de Riyad, ce qu'on appelle le Najd en arabe. Hein. C'est une région qui est toujours restée à l'écart des grands empires parce qu'elle est assez incontrôlable. D'abord, elle est essentiellement désertique avec quelques oasis. Et puis, c'est le territoire de tribus qui sont en guerre quasi permanente les unes avec les autres. Ce que les wahhabites vont réussir à faire, c'est autour de leur message religieux, réussir à unifier ce corps tribal dans toute la diversité de ses composantes, autour, là encore, d'une famille et d'un message religieux.
La famille Saoud.
La famille Saoud.
Alors, en matière de droit, le wahhabisme, c'est quelque chose de particulier. Le droit saoudien s'appuie beaucoup sur le wahhabisme, et notamment sur la charia.
Oui, alors l'Arabie Saoudite a cette particularité que c'est un des pays qui fait donc de la charia la base de son droit. Hein. Il n'est pas le seul, mais c'est en Arabie Saoudite, ça apprend plus loin que dans d'autres pays de la région. La charia fait partie de l'arsenal juridique d'un certain nombre de pays de la région, y compris par exemple de l'Égypte, hein, et même aujourd'hui, hein, après la prise de pouvoir du général Sisi, il y a toujours un article dans la constitution égyptienne qui explique que la charia est la source principale, où les principes de la charia sont la source principale du droit, même en Égypte. Mais en Arabie Saoudite, ça va plus loin. C'est-à-dire que la charia, elle est, en particulier pour ce qui est le droit pénal, par exemple, elle est la source unique du droit. Hein. Les juges sont des oulémas en Arabie Saoudite, il n'y a de justice que religieuse. Et donc, cette justice, elle s'appuie sur donc le Coran et la Sunna, qui est le recueil de traditions prophétiques. Et donc, ça a fait évidemment quelque chose d'assez particulier, d'autant qu'en Arabie Saoudite, la charia n'est pas codifiée. Ça, c'est quelque chose qui est aussi propre à l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire, si vous voyez des pays comme l'Iran, par exemple, hein, qui sont des républiques islamiques, donc qui s'appuient très largement aussi sur la charia pour leurs droits. En Iran, c'est plus compliqué que ça malgré tout, mais enfin, il y a quand même très largement une inspiration de la charia. Mais cette inspiration, elle est transformée en un code de loi relativement similaire à ceux qu'on connaît nous. Simplement, l'inspiration du code de loi, c'est la charia. En Arabie Saoudite, c'est un peu différent, parce que là, on a cette idée du retour aux sources, y compris dans la justice. C'est-à-dire que le juge saoudien, il a devant lui le Coran, la Sunna, et éventuellement des manuels de jurisprudence dont il peut s'inspirer mais auxquels il n'est pas tenu de se limiter. Et c'est à partir de sa propre interprétation religieuse basée sur ces textes qu'il va rendre son verdict. Donc ça crée aussi un certain nombre de problèmes parce que c'est un droit qui est très peu prédictible. Il y a très peu de prédictibilité du droit en Arabie Saoudite parce que là encore, c'est une opération d'interprétation entre guillemets permanente, si vous voulez, le droit. Ça pose des problèmes et c'est aussi pour ça que depuis des années, le pouvoir saoudien se bat avec les oulémas pour codifier le droit.
Et notamment le droit commercial.
Et notamment le droit commercial, c'est ça. Il y a tout un débat. Le droit commercial est évidemment important parce que c'est l'économie saoudienne et son intégration à l'économie internationale qui est directement concernée, puisque vous avez en Arabie Saoudite des compagnies étrangères en particulier, et que justement ce manque de prévisibilité est problématique pour les compagnies étrangères quand elles investissent en Arabie Saoudite, parce que si elles se retrouvent dans un litige avec un partenaire saoudien, elles ont besoin de savoir à quelle sauce elles vont être mangées. Donc ça c'est plus compliqué, mais donc il y a toute une volonté. Alors les Saoudiens se battent d'un côté pour essayer de codifier le droit, mais les oulémas résistent. Hein. On a toujours en Arabie Saoudite ces deux pôles du pouvoir. Il faut toujours voir l'Arabie Saoudite comme un système complexe où vous avez des acteurs qui fonctionnent sur des logiques différentes et qui collaborent les uns avec les autres au nom d'un intérêt commun bien compris. Mais sur ces choses-là, il y a un conflit entre les oulémas qui, eux, sont contre la codification de la charia, parce qu'ils comprennent bien que si le droit est codifié, dès lors, on n'aura plus besoin d'avoir des juges qui sont formés comme des clercs. Vous pourrez simplement avoir des gens qui sont formés, qui ont fait des études de droit, hein, qui ont pris un cursus séculier dans des facultés de droit, mais qui n'ont plus besoin d'avoir tout le bagage religieux qui est celui aujourd'hui des juges saoudiens. Donc ça leur fait très peur parce que les oulémas y voient le début d'une marginalisation et le pouvoir saoudien en retour, lui, il essaye de moderniser son droit pour précisément faciliter ses relations et notamment commerciales avec ses partenaires.
Alors le wahhabisme n'est pas le seul courant religieux de l'islam en Arabie Saoudite, il y en a au moins deux autres. D'abord il y a le chiisme avec la région de Jeddah et puis au nord du Yémen avec les Zaydites et puis il y a aussi les soufis de la région de la Mecque. Comment cela cohabite-t-il? Comment le wahhabisme dominant agit-il avec ces minorités?
Alors, il s'est passé deux choses. D'abord, le wahhabisme d'aujourd'hui a subi ce qu'on pourrait appeler une sorte d'aggiornamento. C'est-à-dire que Mohamed ibn Abdel Wahhab, qui est le fondateur du message, ou l'inspirateur du message, lui est beaucoup plus dur contre ce qu'ils considèrent comme étant des sectes déviantes. Au XXe siècle, on a vu les oulémas saoudiens modérer leur rhétorique. Aujourd'hui, ils appliquent avec beaucoup plus de modération ce qu'on appelle le takfir, c'est-à-dire l'excommunication de celui avec lequel vous n'êtes pas d'accord religieusement. Ils continuent de considérer que leur message est supérieur, que eux représentent l'orthodoxie et que les autres sont hétérodoxes, mais ils essayent au maximum, en tout cas, ils le font aussi sous la pression du pouvoir, de modérer les anathèmes qu'on va trouver au 19e, au 18e siècle contre les soufis, contre les chiites dans une certaine mesure. Hein. Donc il y a cette première chose. La deuxième chose, c'est que l'Arabie Saoudite, là encore, c'est un pouvoir bicéphale, avec d'un côté ce message religieux qui est porté par les oulémas, de l'autre les princes qui ont surtout pour ambition d'essayer de gouverner un pays complexe, et qui, dès le début du XXe siècle, quand les princes saoudiens ont conquis des zones habitées par des chiites ou par des soufis, ont essayé de trouver des accommodements, ont essayé de coopter les élites locales, les notables, ont essayé de ménager des espaces aux uns et aux autres, alors même que ça va contre, a priori, leur prétention à incarner cette orthodoxie sunnite envers et contre tout. Mais là aussi, voilà, l'Arabie saoudite, c'est vraiment un agrégat de cette complexité, avec toujours le politique qui, d'une certaine manière, se veut garant d'un certain pragmatisme qui a tendance à brider l'utopie religieuse, si vous voulez. Et donc, avec les chiites, voilà, les chiites, d'un côté, sont tolérés dans la province orientale du royaume, où ils sont 10% quand même de la population du royaume. Ils sont tolérés, ils ont leur mosquée, ils ont leur rituel. On les a même vus récemment célébrer Ashura, hein, qui est ce grand rituel qui commémore la mort de l'imam Hussein, le petit-fils du prophète. Donc ils sortent dans les rues des villes chiites, etc. Donc d'un côté, on les laisse faire ça. De l'autre, évidemment, ils subissent des discriminations économiques, politiques, même si, malgré tout, ils sont représentés dans certains organes du pouvoir saoudien. Donc il y a une vraie complexité.
Mais alors, cette relative tolérance vis-à-vis de ces autres façons de pratiquer l'islam ne s'applique pas, elle, en revanche, à ceux que l'on appelle les islamistes. Et d'ailleurs, comment peut-on être islamiste dans un pays qui est régi par le wahhabisme ?
Ben, si vous voulez, la base du pacte fondateur de l'Arabie saoudite, ce pacte entre les oulémas, disciple de Mohammed Ibn Abdel Wahhab, du fondateur religieux, et puis les princes de la famille Al-Saoud. Ce pacte, il est finalement que, d'un côté, les princes s'engagent à faire appliquer le message religieux dans la société, et d'un autre côté, les princes s'engagent à respecter ou à soutenir les décisions politiques prises par les princes. Donc c'est un deal où chacun accepte l'autonomie de l'autre, et en même temps accepte de préserver ou de garantir les intérêts de l'autre. Les islamistes saoudiens, ils sont pas d'accord avec ce pacte. C'est-à-dire que ce sont ceux qui considèrent que l'autonomie politique qui est donnée aux princes par les oulémas est inacceptable. Que la politique saoudienne, elle doit aussi être islamique. Pour vous donner un exemple, ce qui fait hurler les islamistes, c'est l'alliance entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, qui date de 1945, qui est une vieille histoire. Les oulémas considèrent que, les oulémas officiels, ceux qui sont dans le pacte, considèrent que cette alliance de 1945, elle est du ressort des princes. C'est la prérogative des princes de faire de la politique étrangère. Et tant que les princes continuent à appliquer le wahhabisme en Arabie saoudite, ils les soutiennent. Les islamistes, au contraire, eux s'immiscent dans la question politique et remettent en cause cette alliance en disant « Mais comment les Saoudiens, comment le pouvoir saoudien peut-il s'allier avec les Américains alors qu'il y a la question palestinienne, il y a les guerres américaines, les Américains sont des chrétiens et nous sommes une puissance musulmane, etc., etc. » Toute cette rhétorique. Donc c'est sur ces choses-là que va se faire là, sur cette séparation qui existe de fait, de manière un peu paradoxale en Arabie saoudite, entre le politique et le religieux. Séparation que les islamistes voudraient remettre en cause.
Alors, on voit bien cet équilibre qui existe en Arabie saoudite entre donc le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Mais ce pouvoir religieux qui est malgré tout fondamentaliste ou rigoriste, est-ce qu'il n'a pas finalement aidé à la création d'autres mouvements comme Al-Qaïda ou aujourd'hui l'État islamique ?
C'est plus compliqué que ça, évidemment. D'un côté, l'Arabie saoudite, c'est un État missionnaire qui se voit comme un État missionnaire. Et ça fait aussi partie du pacte fondateur, c'est-à-dire que les princes s'engagent à faire appliquer le wahhabisme dans la société et à donner aux oulémas le moyen de diffuser le message. En retour, les oulémas soutiennent les princes, c'est ça le deal. Donc ça veut dire que l'Arabie saoudite, depuis qu'elle en a les moyens, c'est-à-dire depuis les années 60, a mis à la disposition des oulémas des fonds et des institutions pour permettre de diffuser à l'extérieur du royaume le message wahhabite ou salafiste. Ces institutions, c'est l'université islamique de Médine, hein, qui forme des imams étrangers qui viennent en Arabie saoudite se former et qui repartent dans leur pays. C'est la Ligue islamique mondiale qui a des bureaux à travers le monde et qui diffuse une littérature produite en Arabie saoudite. Donc il y a eu effectivement très clairement un effort pour diffuser ce message à l'extérieur de la péninsule arabique. Maintenant, le message tel que les Saoudiens l'entendent, c'est quand même un message qui est essentiellement apolitique. On voit bien qu'en Arabie saoudite, les oulémas font pas de politique. C'est un message qui est puritain, rigoriste, mais qui n'a pas le versant politique et évidemment politique violent, qui est celui du djihadisme. Maintenant, ce qui va compliquer les choses, c'est qu'à partir des années 60-70, l'Arabie Saoudite va être aussi prise dans un certain nombre de jeux géopolitiques régionaux qui vont faire qu'au-delà de son soutien à l'establishment religieux pour diffuser le message wahhabite, elle va aussi, pour des raisons de réel politique et de soutien à des acteurs politiques dans des théâtres de conflits, par exemple l'Afghanistan dans les années 80, soutenir plus largement des groupes qui pourront être des groupes islamistes, parce que les Saoudiens considèrent qu'ils ont les mêmes ennemis. Dans les années 80, ce sont les Soviétiques, et donc les Moudjahidines afghans vont recevoir un soutien majeur de l'Arabie Saoudite, y compris dans leurs factions islamistes. Donc, c'est deux logiques assez différentes. Là encore, c'est plus de la réelle politique. D'ailleurs, il faut se souvenir que dans les années 80, les Américains aussi soutiennent les Moudjahidines, alors qu'il n'y a pas de connivence idéologique, comme on peut la supposer, avec l'Arabie Saoudite.
Un dernier mot encore concernant les printemps arabes. Pourquoi l'Arabie Saoudite, par exemple, n'a pas soutenu les mouvements islamistes dans un certain nombre de pays, et notamment par exemple les frères musulmans en Égypte?
Alors, ce qui s'est passé depuis les années 90, c'est une vraie rupture entre l'Arabie Saoudite et les islamistes. Jusqu'en 90, l'Arabie Saoudite, j'ai parlé de l'Afghanistan, c'en est un exemple, hein, l'Arabie Saoudite soutient l'ensemble des mouvements islamistes sunnites, donc dans les années 60, 70, 80 à travers la région, elle les considère comme des alliés, comme des relais d'influence, elle a des ennemis communs, les ennemis communs c'est l'Égypte nassérienne, l'Iran khoméniste, les soviétiques en Afghanistan, donc pour des raisons qui sont là encore de réelle politique, l'Arabie Saoudite va soutenir les islamistes, y compris donc frères musulmans, mais aussi des groupes plus durs que les frères musulmans. 90, c'est l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, c'est la décision du roi Fahad d'Arabie Saoudite de faire appel aux Américains pour défendre l'Arabie Saoudite et libérer le Koweït, et ça va provoquer une rupture avec les islamistes qui considèrent que cet appel aux Américains est inacceptable. Et à partir de ce moment-là, les islamistes vont commencer à critiquer l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite va elle-même faire face à une contestation islamiste dans le pays, hein, qui va durer plusieurs années. C'est la naissance d'Al-Qaïda. Ben Laden commence à devenir le porteur d'une critique virulente de l'Arabie Saoudite. Il est d'ailleurs déchu de sa nationalité saoudienne en 1994. Et à partir de ce moment-là, l'Arabie Saoudite va d'une certaine manière commencer à séparer entre son islam wahhabite salafiste, qui est puritain, rigoriste, mais qui se targue de ne pas faire de politique, et les islamistes, qui eux sont quand même fondamentalement des acteurs politiques, et donc qui sont porteurs d'un modèle et d'un message qui, in fine, va à l'encontre de celui de l'Arabie Saoudite. Ce sont deux modèles différents, hein. Cette monarchie saoudienne qui fonctionne sur cette sécularisation paradoxale, aussi surprenant que ça puisse paraître, où finalement le politique est séparé jusqu'à un certain point du religieux, et où les princes, en tout cas, ont toute latitude pour gouverner, c'est quelque chose qui est inacceptable pour les islamistes. Et donc, à partir de ce moment-là, les Saoudiens se rendent compte que les islamistes sont voués à devenir plutôt des ennemis que des alliés, et ils vont tout faire à partir des années 90, mais surtout à partir des printemps arabes, pour empêcher les islamistes d'arriver au pouvoir. Et donc, en particulier, on prend le cas de l'Égypte, hein, ils vont jouer un rôle majeur dans la chute du président Morsi et son remplacement par le général Sisi. C'est une alliance ancienne qui date de 250 ans, hein, qui date du milieu du XVIIIe siècle, qui reste quand même aujourd'hui extrêmement solide.
Même si pour les Saoudiens de la base, si je puis dire, c'est un frein à l'évolution personnelle.
C'est-à-dire que la population est assez divisée en Arabie Saoudite. Hein. C'est ça aussi qui est compliqué. Il ne faut pas s'imaginer que le wahhabisme, il est subi par l'ensemble des Saoudiens. Vous avez en Arabie Saoudite une bonne partie de la société qui elle-même est convaincue du message, hein, et qui considère que voilà, le message est juste et donc ne se sent pas opprimé par le message wahhabite. Vous avez en revanche aussi ce qu'on appelle en Arabie les libéraux, ceux qui voudraient une libéralisation des mœurs, une libéralisation de la doctrine, et qui eux se retrouvent souvent en porte-à-faux. Et en Arabie Saoudite, s'il fallait faire une estimation, c'est vraiment 50-50 conservateurs libéraux. Il y a des grands débats de société, vous prenez une question comme la conduite des femmes, vous allez trouver 50-50 si vous faites un sondage. Est-ce que vous êtes pour que les femmes conduisent? Y compris d'ailleurs chez les femmes, qui elles-mêmes vont être divisées, parce qu'elles sont aussi à l'image du reste de leur société. Donc sur ces questions qui nous semblent simples, en Arabie Saoudite, les gens restent encore très divisés.
Merci Stéphane Lacroix, chercheur associé à l'École des Affaires Internationales de Sciences Po Paris et membre du CERI.
Merci.
François Porcheron a réalisé ce dernier numéro estival d'Orient Hebdo. Vous pouvez nous réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine à l'écoute de RFI. À samedi prochain, tout de suite, un nouveau journal d'information.